Vous êtes avec SBS French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French. On mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue au programme de ce mardi 24 juin. Avec vous, Jean-Noël Ducasse, pour vous accompagner pendant une heure en français. Et au sommaire de cette émission, le journal, les sports et comme chaque mardi, c'est aussi le rendez-vous de la semaine politique. Il est convenu d'un cessez-le-feu. Dans son message sur Truth Social, il a indiqué que le cessez-le-feu interviendrait après l'achèvement de ce qu'il a décrit comme, je cite, des missions finales en cours. Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi a lui déclaré ce mardi qu'aucun accord de cessez-le-feu n'avait été conclu avec Israël à ce stade. Le président français Emmanuel Macron a déclaré aux journalistes en Norvège que les frappes américaines contre l'Iran n'étaient pas légales, tout en reconnaissant que l'Iran ne devrait pas être autorisé à développer l'arme nucléaire. Il a également averti que les frappes de missiles n'entraîneraient pas de changement de régime. Le président américain Donald Trump a annoncé qu'Israël et l'Iran avaient convenu d'un cessez-le-feu. Dans son message sur Truth Social, il a indiqué que le cessez-le-feu interviendrait après l'achèvement de ce qu'il a décrit comme des missions finales en cours. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré ce mardi qu'aucun accord de cessez-le-feu n'avait été conclu avec Israël à ce stade. Explication de Pierre Olivier pour Radio France Internationale.
Alors qu'il s'était montré assez discret ce lundi sur son réseau social, Donald Trump s'est finalement fendu d'un long message pour expliquer comment, d'après lui, allait se dérouler la suite des événements. Le président n'est pas avare de détails. Sur l'heure d'abord, il prédit un cessez-le-feu à 4h du matin en temps universel, soit 7h en Israël ou 7h30 en Iran, le temps, dit-il, que chacune des parties termine ses attaques en cours. Puis, dans 24h, ce sera la fin de la guerre Paris-Donald Trump, une guerre qu'il a déjà baptisée la guerre des 12 jours. Et à l'en croire, tout rentrera dans l'ordre. Il salue d'ailleurs dans son message l'Iran et Israël pour avoir eu le courage, l'endurance et l'intelligence de mettre fin au conflit. Vous l'entendez, Donald Trump se projette avec une certaine assurance. Il faut rappeler que ce poste arrive 48 heures après l'attaque des bombardiers américains sur 3 sites nucléaires iraniens, après également une riposte sans conséquence de Téhéran ce lundi sur une base américaine du Qatar. Mais la question désormais est de savoir si Donald Trump a réellement toutes les cartes en main pour assurer la mise en œuvre de ce cessez-le-feu et si les deux parties que sont Israël et l'Iran respecteront les conditions. En résumé, il est encore un peu tôt pour annoncer une quelconque trêve entre les deux pays. Pour l'instant, aucun des deux n'a d'ailleurs donné confirmation.
Le président français Emmanuel Macron a déclaré aux journalistes à Oslo en Norvège que les frappes américaines contre l'Iran n'étaient pas légales, tout en reconnaissant que l'Iran ne devrait pas être autorisé à développer l'arme nucléaire. Il a également averti que les frappes de missiles n'entraîneraient pas de changement de régime.
Je l'ai dit dès le début, si on peut considérer qu'il y a une légitimité à neutraliser des structures nucléaires en Iran, compte tenu des objectifs qui sont les nôtres, il n'y a pas de cadre de légalité, non. Et donc il faut le dire tel que c'est, il n'y a pas de légalité à ces frappes, même si la France partage l'objectif de ne pas voir l'Iran se doter de l'arme nucléaire. Nous considérons avec constance, depuis le début, que c'est par la voie diplomatique et technique que cela peut se faire. Et je le dis parce que j'entends beaucoup de commentateurs qui, au fond, vous renvoient à une forme d'inefficacité quand vous défendez la voie diplomatique sur ces sujets. Mais quand on a de la constance, on peut prétendre avoir de l'efficacité. Nous avons participé aux négociations en 2015 du traité dit JCPOA. Les États-Unis ont décidé de sortir du JCPOA 3 ans plus tard. Ce cadre n'étant plus respecté, nous avons pu moins bien suivre le programme nucléaire iranien.
Le nombre d'Australiens ayant demandé de l'aide pour quitter le Moyen-Orient a bondi à environ 2900 personnes en Iran et 1300 personnes en Israël. La ministre australienne des Affaires étrangères, Penny Wong, a déclaré que l'Australie avait suspendu les évacuations par bus depuis Israël après la frappe américaine contre les installations nucléaires iraniennes, mais qu'elle se préparait à d'éventuelles évacuations en cas de réouverture de l'espace aérien israélien. L'Australie a envoyé également 2 avions de défense au Moyen-Orient sans mission de combat pour faciliter les évacuations de civils.
There are always risks, not only from escalation in the region, but also a potential for risk more broadly. I indicated publicly this morning that I have asked my department to consider whether there are any, if there's any alteration to travel advice more generally.
Les Nations Unies affirment observer ce qu'elles décrivent comme une tendance effrayante, les forces israéliennes qui ouvrent le feu sur la foule attendant une aide alimentaire à Gaza. Jonathan Whittle est porte-parole du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies. Il affirme que le nombre de personnes tuées en tentant d'obtenir de la nourriture se compte désormais par centaines.
People in Gaza today are being killed trying to reach food. The attempt to survive is being met with a death sentence. There is no safe way to eat. Since the total blockade was partially lifted just over a month ago, people have been killed almost daily while trying to get food. I've been told over 400 have been killed.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a rencontré le roi Charles et le premier ministre britannique Keir Starmer lors d'une brève visite afin de discuter de la défense de l'Ukraine. Le président ukrainien a rencontré le premier ministre dans les jardins du 10 Downing Street en compagnie de quelques-uns des milliers de soldats ukrainiens en formation au Royaume-Uni. Le premier ministre britannique Keir Starmer a annoncé un accord de coproduction industrielle et militaire entre les deux pays. Volodymyr Zelensky a une nouvelle fois remercié le Royaume-Uni pour son aide militaire continue.
Thank you, dear Prime Minister, dear Keir, thank you for invitation. And we are very thankful to UK, all your team and people of the United Kingdom for such big support of Ukraine from the very beginning of this war.
En Australie, le Conseil australien des services sociaux. Selon le Conseil australien des services sociaux, environ un adulte australien sur 8 et un enfant sur 6 vivent désormais sous le seuil de pauvreté. Cela représente environ 3,3 millions de personnes. Ces chiffres interviennent alors que l'Armée du Salut a publié une nouvelle étude sur la situation critique des personnes qu'elle aide dans une enquête menée. Auprès de 3500 personnes qu'elle soutient, plus d'un tiers d'entre elles ont déclaré ne pouvoir se laver qu'à l'eau froide et 43% n'ont pas les moyens d'acheter du papier toilette, des protections hygiéniques ou du savon. La crise du coût de la vie affecte également l'éducation des enfants. 34% des personnes interrogées déclarent que leurs enfants ont manqué l'école, faute de pouvoir payer l'essence pour les y conduire, faute aussi pour payer les transports en commun. Des groupes de santé de toute l'Australie rurale exhortent le gouvernement fédéral à mettre en œuvre un nouveau plan pour les soins de maternité en milieu rural. The National Rural Maternity Consensus Framework a été publié hier lundi par ces groupes en collaboration avec le Bureau des commissaires à la santé rurale. Ce nouveau cadre définit un plan d'investissement dans les services de maternité conçu en collaboration avec les populations locales, notamment les communautés des Premières Nations, et met l'accent sur la continuité des soins avant, pendant et après l'accouchement. Le président de l'Association des médecins ruraux, Dr Raymond Danwanski, affirme que de nouvelles stratégies sont nécessaires pour garantir que les familles des zones rurales en Australie bénéficient de soins équitables.
You're entitled to healthcare no matter where you live. There are lots of reasons that they're closing, but some of them, again, is model. You can't take the model from Canberra, Sydney. We do have models, and right now one of the models is what's called rural generalist training, but then also the access to emergency services and hospital-based care using a generalist approach as opposed to a specialist approach, just because there's not the volume in rural and regional areas.
Plus de 6000 personnes se réunissent en Norvège jusqu'au 27 juin pour une conférence des Nations Unies sur l'avenir d'Internet, le forum sur la gouvernance de l'Internet et la plateforme de discussion des Nations Unies sur les questions de politique publique liées à Internet et à sa gouvernance. L'informaticien américain Vinton Cerf est considéré comme l'un des fondateurs d'Internet. Dans une vidéo d'ouverture de la conférence, il affirme que les travaux réalisés lors de cette semaine auront des implications importantes pour tout le monde.
Even if we're not using it directly as users, we're still affected by others who are using it for their daily work. So we have to train people to understand what the risks are and how to defend themselves against those risks. There is a very tricky balance here to figuring out how to make the internet configured to serve us all well, while at the same time not being abused by either individuals or by government.
The Indigiverse, la première bande dessinée autochtone au monde consacrée à des super-héros autochtones, a présenté sa première super-héroïne à ses fans. Dream Walker raconte l'histoire d'une guerrière, Guniyandi, qui voyage à travers le temps et l'espace pour protéger son peuple tout en essayant de retrouver l'enfant qui lui a été enlevé. Il semblerait que la nouvelle série soit en rupture de stock chez Supernova à Sydney. Le co-scénariste Scott Wilson explique s'être inspiré des matriarches de sa famille afin que leurs histoires et leurs langues ne soient jamais oubliées.
Over the last few days on Gadigal Country, we've been sharing Dreamwalker and it is inspired by my great-grandmother Mangala. And just to be able to share her story, but also share our culture as Guniyandi people, has just been absolutely phenomenal. I believe that now, because of the comic books, we have a way to preserve and protect it forever.
Le Master of Indigenous Business Leadership, qui en est à sa cinquième édition, est co-conçu et dirigé par des chefs d'entreprise, des aînés et des universitaires autochtones. La promotion de cette année comprend 17 étudiants issus de plus de 20 communautés à travers le pays. Kaylee Nicholson, diplômée de la promotion 2025 et dont la famille est présente dans tout le Victoria et en Nouvelle-Galles du Sud, se dit enthousiaste à l'idée d'intégrer le savoir des Premières Nations.
There is nothing more self-determined or self-determining than having your own business. You make every decision. The success and failure of that business really rests on your shoulders. And so, you know, that's an incredibly daunting thing to think about, but also it's so freeing.
On passe à la météo pour ce mardi en Australie. À Perth, il fera 19 degrés, Adelaide 14, Melbourne 16, Hobart 16, Canberra 14, Sydney 21, Brisbane 25, Darwin 32 et à Alice Springs, maximal de 20 degrés. Fin du journal, merci de l'avoir suivi. Et maintenant, on passe au journal des sports et vous êtes en compagnie de Marianne Murat.
Mesdames et messieurs, bonjour. Votre journal des sports du mardi 24 juin 2025. On commence avec du basket et la finale de la NBA, première finale en 7 matchs depuis 2016. Et ce sont les Thunders d'Oklahoma City qui remportent le titre face aux Pacers d'Indiana, 103 à 91 pour ce 7e et dernier match. On retrouve sur place aux États-Unis le correspondant de Radio France Internationale, Loïc Piala. Il a suivi cette finale de NBA.
Thunder, c'est une franchise jeune, hein, créée en 2008, mais c'est vrai que c'est le premier titre de cette jeune franchise, jeune équipe aussi, qui était très stressée avant ce match 7, parce que tout peut jouer sur ce match 7, et normalement, il y a beaucoup de suspense, sauf que là, le meilleur joueur de Indiana, Tyrese Haliburton, s'est blessé dès le début du match. Ça a quand même enlevé beaucoup d'inquiétude du côté du Thunder, qui a plutôt dominé ce match, même si Indiana s'est accroché, a montré beaucoup de cœur, comme tout au long de cette finale, hein, qui dure depuis deux semaines. Et c'est bien entendu donc Oklahoma City qui s'est imposé grâce à sa star chez Julius Alexander, nommé sans surprise MVP, meilleur joueur de cette finale, après avoir déjà été désigné meilleur joueur de la saison. Et ce qui est fort avec cette équipe d'Oklahoma City, c'est qu'elle est très jeune, donc on peut s'attendre à la revoir l'année prochaine et les années d'après, même si peut-être que cette finale a été plus difficile, plus relevée que ce que pensaient les observateurs. Mais ça, c'est, il faut saluer le travail d'Indiana, qui a vraiment fait preuve d'énormément de cœur dans cette finale. Bravo à eux.
Un succès à domicile, hein, qui rend l'entraîneur de la plus jeune équipe du championnat très fier. On l'écoute, il s'appelle Marco Degno.
Je suis tellement heureux pour les gars. C'est une équipe hors du commun, une grande équipe. Ils ont coché tellement de cases cette saison. C'est une équipe historique, mais il n'y avait aucune garantie de finir comme nous l'avons fait. Je suis ravi que nous ayons pu le faire et qu'ils puissent vivre cette expérience, parce qu'ils le méritent. Leur approche, leur professionnalisme, leur compétitivité, leur esprit d'équipe, je le voulais tellement pour eux.
Team first nature, like I said, I wanted it so bad for him.
Voilà pour la finale de la NBA remportée par les Thunders d'Oklahoma City pour la première fois de leur histoire. On passe au football avec le mondial des clubs qui se déroule actuellement aux États-Unis. Fin de la phase de poule, le Real Madrid, mal engagé dans la compétition jusque-là, a donné une véritable leçon de réalisme au Mexicain de Pachuca. 3-1. On fait un retour sur ce match avec Antoine Grenier pour RFI.
Réduit à 10 dès la 7e minute avec l'exclusion de Raúl Asensio, les Merengues ont quand même dominé les Mexicains de Pachuca 3-1, début signé Bellingham, Arda Güler et Valverde. La réduction du score des Mexicains signé Montiel n'a rien changé. Première victoire pour Xabi Alonso sur le banc madrilène, et le milieu de terrain Jude Bellingham s'en satisfait.
On a très bien joué, on a fait des choses meilleures que la dernière fois. Le plus important, c'est que l'équipe s'est bien comportée. J'ai beaucoup parlé avec le coach, il a beaucoup de bonnes idées sur notre façon de jouer. C'est quelqu'un de brillant, on peut apprendre beaucoup de lui. C'est une nouvelle étape pour nous les joueurs, on est contents. Je suis content de travailler avec lui.
Muy contento con él.
De son côté, Salzbourg a été tenu en échec par Al Hilal, 0-0. Les Autrichiens ont manqué une belle occasion de rallier les huitièmes de finale. Qualification en revanche pour la Juventus de Turin après son succès 4-1 sur le Wydad Casablanca, et de Manchester City, vainqueur 6-0 d'Al Ain. Voici les résultats qui marquent la fin de la deuxième journée. Pour ce qui est de la troisième et dernière journée de la phase de poule, eh bien, mission réhabilitation réussie. Ici pour le PSG, les Parisiens vainqueurs 2-0 à Seattle face au club local, ce qui leur permet de rester dans le tournoi. Victoire également de l'Atlético Madrid. Les Espagnols l'emportent 1-0 face aux Brésiliens de Botafogo. Mais voilà, ça ne suffit pas, les Espagnols sont éliminés de la compétition. Football toujours, et Paul Pogba qui signe à Monaco. Après de longues négociations, le champion du monde 2018 s'est mis d'accord avec la principauté sur un contrat de 2 ans. L'international français aux 91 sélections qui a fait d'une participation à la Coupe du Monde 2026 un objectif prioritaire va donc découvrir la Ligue 1 à 32 ans, lui qui n'a jusqu'ici porté que les maillots de Manchester United et de la Juventus Turin en professionnel. Un mot de cyclisme à présent, et c'est Joao Almeida qui remporte le 88e Tour de Suisse. Le coureur portugais a dominé dimanche le contre-la-montre final de 10 km, effaçant ainsi le retard qu'il accusait sur le maillot jaune Kevin Vauquelin, faisant ainsi coup double. Il efface son retard, il bat le maillot jaune et il gagne le Tour de Suisse. Le Français arrive donc deuxième, il en a profité pour témoigner sur les réseaux sociaux et bien des problèmes financiers de son équipe, on l'écoute.
Si j'expliquais un peu tout l'envers du décor qu'on a eu cette semaine avec l'équipe, on va pas se mentir que face à des équipes comme UAE, c'est pas la même. Voilà, là c'est, je pense que c'est l'occasion de vous dire devant les médias que bah voilà, cette semaine on n'a pas eu de cuistot, on a eu beaucoup moins de moyens. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une situation financière compliquée. Manu Hubert, c'est très compliqué pour lui. Mais on s'en sort, on montre qu'on est là. Donc j'espère que ce résultat, c'est l'équipe qu'on a, l'état d'esprit qu'on a, avec Christian qui fait aussi deuxième à la Classique d'Andorre. pourra amener des sponsors et aider Manu Hubert et l'équipe Arkéa Milieu Hôtel, parce que je pense qu'on en a besoin et qu'on montre que le staff et les coureurs donnent le maximum avec les peu de moyens qu'on a. Si on doit se comparer avec les grosses formations et les gros budgets, bah c'est très compliqué. Donc j'espère que ça mettra un peu d'envie à certains sponsors de venir, de montrer que c'est pas parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens qu'on n'est pas capable de faire des résultats. Et voilà, j'espère qu'on va vraiment aider là-dessus. Et je me suis construit grâce à l'équipe. Je suis arrivé pro chez Arkéa Milieu Hôtel en 2022. J'ai grandi avec eux. J'en suis ici grâce à eux. Et donc je remercie tous, le staff en entier, Emmanuel Hubert bien entendu. Donc voilà, j'espère vraiment les aider et j'espère que ce discours retentira haut et fort dans les médias.
Voilà, c'était Kevin Vauquelin, numéro 2 du Tour de Suisse. Une revanche pour João Almeida, donc, qui était arrivé, lui, deuxième l'année dernière. En tennis, après Rome et Roland-Garros, c'est bien troisième titre d'affilée pour Carlos Alcaraz, vainqueur de Jiří Lehečka en finale du Queens, 7-5, 6-7, 6-2. 42e victoire de la saison, l'Espagnol de 22 ans se pose en grand favori pour Wimbledon qui se déroule jusqu'au 13 juillet. Côté français, Caroline Garcia a déclaré forfait. Blessée au dos, la Lyonnaise de 31 ans ne disputera donc pas son 14e et dernier Wimbledon. Ex numéro 4 mondial, Caroline Garcia arrête sa carrière professionnelle à la fin de l'année. Enfin, pour terminer ce journal des sports, eh bien, c'était son grand jour hier. Kirsty Coventry a officiellement pris la tête du Comité international olympique. Élu il y a 3 mois, l'ancienne nageuse zimbabwéenne de 41 ans a reçu hier à Lausanne le témoin des mains de son prédécesseur allemand Thomas Bach. Kirsty Coventry, première femme et première africaine à la tête de l'instance internationale. Christophe Diremzian, RFI.
Qu'elle semble loin, la petite fille de 9 ans d'Harare, rêvant devant sa télé d'imiter les plongeurs zimbabwéens à Barcelone en 1992. 7 médailles aux JO et 12 années à gravir une à une les marches vers l'Olympe plus tard. Kirsty Coventry fait désormais l'histoire à sa façon, mais veut rester modeste.
Après l'élection, nous sommes rentrés à la maison et mon mari s'est mis à rire pendant un petit déjeuner. Il m'a regardé et m'a dit « Tu te rends compte que tu es la personne la plus puissante dans le sport ?» Et j'ai répondu « De quoi tu parles ?» Pour moi, ce n'était pas une question de titre ou de pouvoir. Parfois, cela peut être un obstacle et vous faire vous concentrer sur les mauvaises choses. Ce n'est vraiment pas ce qui m'a incité à faire cela.
Ses vrais désirs, défendre l'olympisme dans un monde instable, rester en phase avec les jeunes, mais aussi offrir toujours plus d'opportunités aux athlètes sans moyens, avec la détermination d'une dirigeante qui n'oublie pas d'où elle vient.
C'est là que je vois une de mes forces, c'est d'être issue d'un tout petit comité national olympique et de voir tous les défis auxquels leurs athlètes font face. Comment allons-nous réellement pouvoir nous assurer que les athlètes au parcours de vie très différents auront des chances égales d'avoir accès au sport. Ce seront des aspects vraiment importants à mener à bien.
Soutenir les petits tout en se faisant respecter des grands, quelle attitude avoir face à Vladimir Poutine et à l'envie de Donald Trump d'influer sur l'ordre sportif mondial, la diplomate Coventry sera autant scrutée que son style.
De son côté, l'ancienne ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra prend la tête du comité olympique français. Seule en lice, elle a été élue sans surprise donc pour 4 ans à la tête de l'institution. 9 mois après avoir quitté le gouvernement, elle replonge dans le bain olympique avec notamment les Jeux olympiques d'hiver 2030.
Très heureuse de pouvoir à nouveau défendre les intérêts du sport, défendre la place du sport dans notre société. On a besoin aujourd'hui, dans le contexte qu'on connaît, d'être aux côtés des pratiquants de sport, aux côtés de nos athlètes, aux côtés du développement de cette pratique dans les territoires. On a connu un été 2024 merveilleux. Il faut que cette dynamique, cet élan continue à nous porter. Et je pense que le sport est l'un des remèdes aujourd'hui à pas mal de maux de notre société. Il ne peut pas tout. Il y a des éléments qui sont plus importants que le sport. Mais le sport peut beaucoup. Et je crois que c'est aujourd'hui un élément encore trop sous-utilisé dans notre société.
Voilà, c'était Amélie Oudéa-Castéra qui succède à David Lapartien qui, lui, ne se représentait pas. C'est la fin de ce journal des sports, messieurs, dames. Merci beaucoup de l'avoir suivi.
Vous écoutez le programme en français. C'est mardi et on passe au rendez-vous de la semaine politique.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
L'État du Victoria a confirmé son projet d'ouvrir son premier centre fixe de dépistage de pilules à Fitzroy, l'un des quartiers les plus populaires de Melbourne, pour sa vie nocturne. Le service proposera des tests pour la plupart des substances et se servira de point de détection précoce pour les autorités qui surveillent les opioïdes synthétiques extrêmement dangereux, tels que le fentanyl et les nitazènes, lesquels peuvent être mélangés à d'autres drogues. Cette décision place le Victoria dans une position unique en matière de politique sur les drogues, alors que les États et territoires australiens tentent de trouver un équilibre entre la réduction des risques et les politiques de plus en plus strictes en matière de sécurité publique. Un reportage signé Deborah Gork pour SBS News, produit par Marianne Murat. Ici, au Festival Ardmisson, on aime faire la fête, comme l'indique le panneau. Cet événement populaire à l'hippodrome de Werribee, dans le sud-ouest de Melbourne, faisait partie des sites choisis pour un essai de dépistage de pilules dans l'état du Victoria, après que 9 personnes ont été hospitalisées pour des overdoses présumées en 2024. La première ministre du Victoria, Jacinta Allan, avait déclaré à l'époque qu'elle savait très bien que certains festivaliers consommaient des drogues lors de ces événements et que le gouvernement souhaitait avant tout assurer leur sécurité.
We know that if a young person has a pill in their hand, they're at a music festival, they're intending to use it. Young people are also entitled to have access to health-focused supportive advice about what is in that pill, and get the health advice that can be then wrapped around that young person.
Le gouvernement de l'État affirme que les essais de dépistage ont été un franc succès, avec près de 1400 échantillons analysés. Les principales drogues détectées étaient la MDMA, la kétamine et la cocaïne, mais environ 11% des échantillons ne correspondaient pas à ce que les consommateurs pensaient avoir. À la suite de cet essai, le gouvernement travailliste de Jacinta Allan a désigné Fitzroy, dans la banlieue nord de Melbourne, comme site du premier centre fixe de dépistage de pilules. La directrice Sarah Hailey a déclaré à Channel 9 que le service, qui ouvrira en août, sera gratuit et confidentiel.
In this space, we'll actually have a private consultation room, the sample drop-off room. The lab is up at the end.
Le service proposera des tests sur la plupart des pilules, gélules, poudres, cristaux et liquides, et agira comme un système d'alerte précoce pour les autorités concernant les opioïdes synthétiques très dangereux. La ministre de la Santé mentale, Ingrid Stitt, a précisé qu'il s'agissait de sauver des vies et non d'adoucir la position du gouvernement sur les drogues.
None of this means that it's legal to have drugs on you. This is a known drug use part of our city, so all of those factors meant that this was a really good location.
Cette annonce signifie que le Victoria rejoint le territoire de la capitale australienne en étant l'un des deux seuls territoires d'Australie à disposer d'un site fixe de dépistage des pilules. Plus tôt cette année, le Queensland a décidé de ne pas renouveler les contrats de ses propres sites de dépistage permanents à Bowen Hills, Brisbane, et Burleigh Heads, Gold Coast, malgré la découverte pour la première fois dans les eaux usées australiennes d'opioïdes synthétiques extrêmement puissants, jusqu'à 40 fois plus forts que le fentanyl. La commission de la santé mentale du Queensland a plutôt été chargée de développer un système de surveillance des overdoses. Cette décision a poussé le président de l'Association médicale australienne du Queensland, le docteur Nick Yim, à déclarer que sans système d'alerte précoce comme le dépistage des pilules, il craignait que ces fermetures ne conduisent à un taux de dommages plus élevé au final.
It's disappointing that Crisafulli government, who was elected on a promise that they would listen to the experts, has once again dismissed the evidence supported by doctors. Without regulated testing, already vulnerable community members remain exposed to these hidden dangers.
Le ministre de la Santé, Tim Nicholls, a défendu la décision de mettre fin au contrat des cliniques, invoquant, lui, la position du Parti libéral national contre les drogues. Cette décision a été soutenue par d'autres membres du gouvernement, comme le ministre des Petites Entreprises, Steve Minikin.
We don't believe there is any safe way to actually undertake illegal drugs. We will not be going down the pill testing path.
Mais dans d'autres États, comme la Nouvelle-Galles du Sud, les centres de dépistage des pilules ne sont toujours pas écartés. Un essai de 12 mois est actuellement en cours lors des festivals de musique à travers l'État, un projet que le Premier ministre Chris Minns a indiqué vouloir laisser suivre son cours.
There's an essential contradiction to this change in policy. Drugs are illegal in the state, yet we've made a decision to allow for pill testing at major music festivals. The government's made a decision to live with the contradiction rather than risk someone dying as a result of having it in place.
Ce reportage est signé Deborah Grock pour SBS News, produit par Marianne Murat pour SBS French.
Donnez votre opinion sur les sujets qui vous intéressent. Envoyez un SMS au 04 88 79 93 23 ou rejoignez notre page Facebook pour participer à la conversation.
Vous écoutez le programme en français. Et maintenant, un nouvel épisode de l'histoire cachée de l'Australie avec le professeur Romain Fatti qui est avec Grégory Pless. Et dans cette première partie, on vous présente les débuts de l'exploitation de la laine en Australie et comment elle contribue à créer les premières fortunes.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre série sur l'histoire de l'Australie. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un animal qui a joué un rôle crucial dans la colonisation et dans l'accession à la prospérité de l'Australie. Cet animal, c'est le mouton. Comme d'habitude, nous avons le plaisir de retrouver avec nous le professeur d'histoire Romain Fatti pour en parler. Bonjour Romain.
Bonjour Grégory, merci de me recevoir.
Alors, il y a une expression qui résume assez bien ce rapport entre l'histoire de l'Australie moderne et l'élevage des moutons. Cette expression, elle dit « Australia was built riding on a sheep's back ». Autrement dit, l'Australie a été bâtie à dos de moutons, pour le traduire un peu rapidement. Est-ce que cette expression, selon vous, c'est une exagération ou est-ce que, effectivement, le destin des moutons et des Australiens est vraiment lié ?
Alors, je vais vous faire une réponse de Normand. C'est à la fois pas du tout une exagération et à la fois un peu une exagération, dans le sens où, effectivement, pour l'Australie post-coloniale, d'après 1788, les moutons sont extrêmement, extrêmement important dans le développement de la colonisation et des exports australiens. Il faut voir que c'est une industrie qui structure l'économie australienne pendant des décennies. Donc effectivement, c'est la pierre précieuse sur la couronne, si vous voulez, parce que ça génère énormément d'exports. Et pour développer l'économie australienne, vous avez besoin d'exporter pour avoir des capitaux qui vous permettent de faire autre chose. Donc, tout au long du 19e et même du 20e, vous avez, surtout au 19e, les exports principaux, ça va être les moutons, donc sous forme de laine ou de viande, l'or et puis le blé australien. Donc là, vous avez le trio qui structure l'économie australienne du 19e siècle et qui est très important. Et ça continue. Même récemment, depuis l'an 2000, l'Australie produit toujours plus de 50% de la laine mérino mondiale. En 1950, juste pour vous donner un ordre d'idée, donc 1950, c'est il n'y a pas si longtemps, 56% de la production agricole australienne, c'est de la laine. Alors vous avez une chute dans les années 70, parce que production de matières synthétiques, donc plus personne ne demande de laine aujourd'hui. Alors moi j'ai quelques très beaux pulls que ma grand-mère m'a tricoté en laine, que j'ai toujours, mais la laine c'est quand même assez rare, c'est un objet, une matière qui est noble, et la plupart d'entre nous on utilise des matières synthétiques ou du coton. Mais effectivement, quand on dit que l'Australie a été bâtie sur le dos des moutons, c'était pas tellement une exagération dans le sens où ce sont des capitaux qui sont absolument énormes et ça structure également un bon nombre de communautés rurales parce que vous avez besoin de beaucoup de personnes pour tondre, pour élever les moutons, pour s'en occuper. Donc effectivement, c'est une industrie absolument structurante de l'Australie coloniale.
D'accord. Alors, eh bien, dans ce cas, on va reprendre le fil de l'histoire puisque, en fait, des moutons, il y en avait à bord de la toute première flotte, la fameuse première flotte qui est arrivée en Australie le 26 janvier 1788 pour établir le début de la colonisation anglaise. Donc, on avait bien sûr à bord des convicts, mais aussi quelques moutons.
Oui, alors ils n'étaient pas les seuls, hein. Vous avez aussi d'autres animaux parce qu'effectivement, il faut penser à se nourrir. Et puis, pour l'avantage des moutons, hein, c'est que vous avez non seulement la nourriture, mais vous avez aussi la laine. Mais ces quelques moutons qui arrivent, qui ont été amenés en fait d'Afrique du Sud, ne se plaisent pas bien, ne sont pas très productifs. Et finalement, c'est un peu comme, vous savez, les épisodes qu'on avait fait sur les lapins. Il y a une première introduction avec la première flotte en 1788, donc. Mais cette première introduction, à la fois pour les moutons et pour les lapins, ne se solde pas totalement par un échec, mais ne fonctionne pas aussi bien qu'escompté. Si bien qu'au tout début, en fait, il n'y a pas vraiment d'idée d'obtenir une industrie de la laine sur les moutons. Ce qui compte, ce serait plutôt de nourrir la population que l'on compte faire venir s'installer en Australie via la déportation de prisonniers. Donc au début, voilà, c'est pas une espèce qui tourne, si vous voulez.
Ouais. Et alors justement, donc il y a eu une introduction de moutons qui va, pour le coup, s'avérer payante quelques années plus tard. C'est, vous le disiez tout à l'heure en donnant quelques chiffres sur la production de laine australienne, c'est l'espèce aujourd'hui qui est la plus répandue en Australie, le fameux Merinos. À vrai dire, je suis pas sûr si on doit prononcer le S ou pas. Mais en tout cas, c'est une espèce de mouton qui est d'origine espagnole. Et qui, à l'époque, est considéré par le Royaume d'Espagne comme un véritable trésor national. Et c'est même presque miraculeux, en fait, que les Anglais aient pu en obtenir quelques spécimens pour les ramener dans leur nouvelle colonie.
Oui. Alors, ça peut nous paraître, à l'ère de la mondialisation, étrange que des moutons soient considérés comme un trésor national. Mais il faut se remettre dans ce contexte-là. C'est-à-dire que la famille royale espagnole possède des troupeaux de moutons mérinos. Vous avez deux sous-espèces, une espèce avec une laine un peu vulgaire, mais dense, et puis une espèce avec une laine qui est beaucoup plus noble. Et donc, c'est celle-là dont il va s'agir pour nos amis australiens un peu plus tard. Pendant très longtemps, vous êtes puni de mort en Espagne si vous faites sortir ces moutons. Non seulement ils appartiennent à la couronne, mais en plus, vous n'avez pas le droit de les exporter. Et ils sont utilisés pour faire de la diplomatie. Donc, avec de très très bons amis, c'est-à-dire d'autres têtes couronnées européennes, peut-être qu'on peut se permettre de faire quelques mérinos en cadeau, ici ou là. Un peu comme aujourd'hui les pandas. Alors, on ne fait pas de l'élevage de pandas, mais on sait bien que la Chine utilise les pandas comme un outil de diplomatie. Et donc, ces moutons qui sont extrêmement convoités le sont d'autant plus qu'ils sont extrêmement rares, sauf en Espagne, qui a produit cette laine absolument magnifique sur laquelle une bonne partie de son économie dépend. Alors, il se trouve que par tout un tas de donations, d'échanges avec d'autres têtes couronnées, vous savez que l'Espagne est attachée aux Pays-Bas pendant assez longtemps, voilà. Vous avez des moutons qui voyagent un petit peu. Et les Anglais arrivent à mettre main sur quelques moutons, en fait sur la descendance de quelques moutons qui ont été envoyés en Afrique du Sud. Et la progéniture de ces enfants, de ces moutons, pardon, sont récupérés par un capitaine britannique qui s'en va vers l'Australie. Et donc c'est comme ça qu'arrivent en Australie des mérinos, qui se plaisent énormément avec le climat australien. Et alors là, succès total, ces moutons se reproduisent. La première toison australienne de mémoire est vendue en Grande-Bretagne en 1809, donc assez tôt, et très peu de temps après, vous avez plusieurs bateaux hein, avec d'autres toisons qui arrivent en Grande-Bretagne, et cette laine est très recherchée parce qu'elle est d'excellente qualité. Elle l'était déjà à l'époque espagnole, et elle l'est encore plus en ce début du XIXe siècle via la production australienne qui vraiment est au tout début. Hein.
Alors justement, donc cette industrie de la laine en Australie, elle est toute naissante. Il me semble que le tout premier élevage s'établit dans ce qui est aujourd'hui la banlieue ouest de Sydney, à Parramatta. Et vous expliquez très bien que les moutons ici sont dans des conditions ultra favorables et du coup, il n'y a pas de problème de reproduction sur la qualité de la laine. Mais on peut imaginer que à la fin du XVIIIe siècle, du XIXe siècle et au début du XIXe siècle, c'est encore peut-être difficile de découler cette marchandise en Europe, à l'autre bout du monde, simplement parce que les frais de voyage sont encore gigantesques à l'époque. Et pourtant, vous le dites, au bout d'une dizaine d'années à peine, les premières toisons sont vendues en Angleterre et puis il y en aura beaucoup d'autres derrière. Mais ce qui a permis peut-être aussi à la laine australienne de se démarquer sur ces marchés européens très éloignés, c'est le fait qu'au même moment, toute l'Europe est en train de se faire la guerre, Napoléon notamment, contre à peu près tous les autres en fait.
Oui, alors c'est une bonne manière de résumer ce qui se passe avec Napoléon. Alors effectivement, aujourd'hui, ce serait peut-être difficile dans un contexte d'économie mondialisée avec des frais de douane. Il y a un petit contexte Trump en ce moment, mais de manière générale, les barrières tarifaires ont été abolies. À l'époque, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le commerce se fait généralement à l'intérieur des empires. Et quand vous êtes obligé de commercer avec un autre empire, souvent vous percevez ça comme quelque chose qui n'est pas nécessairement bénéfique à votre économie, parce qu'on est sur la fin d'une économie qu'on conçoit comme quelque chose à somme nulle. C'est-à-dire ce que j'ai, c'est quelque chose que mon voisin n'a pas, donc je suis plus riche par l'accumulation de plus de richesses. Or, c'est pas ça. On sait bien que ce qui crée de la richesse, c'est l'échange. C'est l'échange qui va produire et enrichir tout le monde. Donc ça, c'est le paradigme dans lequel on vit aujourd'hui, mais pas à l'époque. Si bien que pendant un moment où la production en Espagne n'est pas aussi bonne qu'elle devrait l'être, et puis il y a Napoléon qui va placer quand même sa famille sur le trône d'Espagne, pendant une guerre absolument dévastatrice. Bref, tout ça fait que c'est assez difficile. Et la production, qui n'est pas si bonne que ça en Angleterre, la qualité de la laine australienne et le fait que quand vous envoyez des navires pour coloniser un pays comme l'Australie, vous les envoyez à plein, avec des hommes, avec des ressources, il faut bien ramener quelque chose. Vous ne faites pas voyager des bateaux à vide. Donc, si vous voulez, il y a un contexte pratique économique qui fait que, à ce moment-là, ça fonctionne. Et ça fonctionne d'autant plus qu'effectivement, vous avez les grandes campagnes napoléoniennes qui requièrent, à la fois pour les armées françaises, mais aussi les armées des autres pays, de déplacer des centaines de milliers de troupes, parfois en hiver. Et la laine, ça chauffe. Et plus la laine est bonne, de meilleure qualité elle est, plus vous êtes au chaud, plus vous êtes au sec également. Donc, vous avez ce marché-là qui bénéficie d'un contexte où, effectivement, il y a de la demande. Et quand vous avez de la demande, c'est toujours bénéfique de vendre à l'étranger. D'autant plus que les productions australiennes sont telles que vous n'avez pas suffisamment d'Australiens pour les acheter. C'est de la marchandise d'export. Le marché est beaucoup plus important à l'étranger. Donc, comme toutes les industries naissantes australiennes, de la fin du 18e, début du 19e, le but, c'est l'export, que ce soit pour la graisse de baleine, etc. Donc, le marché est conçu comme le marché impérial britannique. Et quand vous avez accès à Londres, vous avez accès à tout le reste de l'Empire, qui est le premier empire quasiment à l'époque. Voilà.
Et donc, au sein de cet empire, petit à petit, chaque colonie en fait, se spécialise. Et donc, on comprend bien, là, dans le cas de l'Australie, sa spécialité, c'est donc la laine qui devient, dès la fin du 19e siècle, le principal produit d'exportation de l'Australie. Il n'y a d'ailleurs quasiment rien d'autre qui n'en sort. Et c'est un point, en fait, sur lequel on s'écarte un petit peu de l'histoire pure de l'élevage des moutons en Australie, mais si on compare l'Australie à d'autres pays qui ont été colonisés, je trouve que quand même il y a quelque chose qui met l'Australie un petit peu à part, puisque donc si par exemple on prend le cas de l'Amérique du Sud au 15e, 16e, 17e siècle, colonisé par le Portugal et l'Espagne, ils vont en ramener des quantités phénoménales d'or qui vont faire évidemment contribuer à leur puissance, à leur prospérité. En Amérique du Nord, dans les Caraïbes, ça va être la plantation du tabac et puis de la canne à sucre, alors dans des conditions qui sont très discutables, évidemment, mais là aussi, c'est ça qui va relancer la prospérité des colonisateurs dans ces territoires. Et le point commun entre l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord et les Caraïbes, c'est que ce sont au final des produits, des matériaux issus des continents qui viennent d'être conquis, qui font la richesse de ceux qui les ont colonisés. Alors qu'en Australie, eh ben, on parle d'animaux d'origine européenne qui ont été ramenés par les colons. Et au final, ce qui fait la prospérité de l'Australie, en tout cas à cette époque, ce ne sont pas des produits ou des matériaux australiens.
Alors, oui et non. Oui, dans le sens où, en fait, en termes de représentation, vous avez raison. C'est-à-dire qu'on s'imagine les galions portugais et espagnols chargés d'or qui reviennent à Séville. Mais les Espagnols ont aussi fait débarquer tout un tas de moutons, de vaches et de chevaux en Amérique du Sud. L'industrie de la viande argentine n'est pas quelque chose de tout à fait nouveau. Et effectivement, en fait, ce qui rapporte le plus, c'est l'or. Et puis après, vous avez, pendant les périodes de la traite négrière et le commerce triangulaire, le sucre, le tabac, etc. Mais assez tôt, en fait, les Espagnols font de l'élevage en Amérique du Sud. Simplement, c'est pas aussi volumineux, c'est pas aussi important, et c'est surtout un cataclysme écologique. Donc effectivement, c'est peut-être un peu différent. Je vois ce que vous voulez dire, dans le sens où la ressource était sur place pour le tabac, le sucre, l'or. L'Australie, la ruée vers l'or, elle se passe un peu plus tard dans le temps. 1850, 1860, 1870, 1880, effectivement, où vous avez des milliers de personnes qui se ruent en Australie pour exporter de l'or qui devient, comment dirais-je, un des exports principaux de l'Australie, mais effectivement en compétition avec la laine des moutons, que vous avez bien fait de rappeler que ça vient d'ailleurs.
Alors, j'ai pensé à ce point parce qu'il y a quelques temps de ça, j'avais lu un article que j'avais trouvé très intéressant qui se demandait pourquoi l'Australie est en gros la seule ancienne colonie dont on n'a adopté aucun aliment. On ne peut pas trouver tellement de produits typiquement australiens dans les supermarchés aujourd'hui. Et l'argument qui était développé dans cet article, c'était les colonisations en Amérique, dans les Caraïbes, etc. Elles se sont passées donc au 15e, 16e, 17e siècle, à une époque où il fallait encore apprendre à vivre de la terre sur laquelle on se trouve pour survivre. Alors que la colonisation de l'Australie, elle commence à peu près au même moment que la révolution industrielle et que à ce moment-là, il y a un changement de mentalité qui est faut plus savoir vivre de la terre, mais faut imposer à la terre la façon dont on vit, la façon dont on produit des choses. Et voilà, je m'étais demandé si peut-être il y avait un lien aussi par rapport à ça et sur le fait que ben on ramène des animaux européens plutôt qu'on apprend à, je sais pas, élever des kangourous.
Complètement. On pourrait, le kangourou, ça se mange, c'est très bon. Il pourrait y avoir une industrie gigantesque de la viande de kangourou en Australie. C'est techniquement possible. Sauf qu'effectivement, il n'y a quasiment pas de marché pour cette industrie. On en retrouve beaucoup dans les boîtes pour les chiens, par exemple. Mais finalement, à part aller dans un restaurant un peu sympa qui va avoir un steak de kangourou pour faire découvrir, non. Donc vous avez totalement raison, cette colonisation, dès le début, elle vient dans la première flotte avec des animaux européens, avec des graines européennes. Et on fait des études en Australie pour savoir quelles cultures connues pourraient fonctionner dans quels états. Donc il y a pas, on ne se pose pas la question de ce qu'on peut faire vraiment avec les ressources locales, du moins immédiatement, ou alors c'est anecdotique. En revanche, très rapidement, ou même plus tard, la mangue, qui est une énorme industrie, l'avocat, le coton, du riz, on fait du riz et du coton dans le nord du Queensland. C'est une aberration écologique, évidemment, mais comment dirais-je, ça traduit tout à fait ce que vous dites. C'est-à-dire qu'on arrive à un moment où en fait on est un peu moins dépendant des ressources du surplace pour survivre, et on peut coloniser via d'autres produits ou d'autres animaux qui vont assurer non seulement la survie de la colonie, mais aussi des ressources en s'intégrant à un marché mondial où on peut vendre le surplus.
Et voilà, c'est déjà la fin de ce premier épisode. On se retrouve très prochainement pour la suite, dans laquelle on abordera dans un deuxième épisode eh bien, comment l'élevage et la production de moutons et de laine a accompagné de très très près la conquête territoriale et coloniale de l'Australie. D'ici là, portez-vous bien.
Et enfin, d'émission, un rappel des titres de ce 24 juin. Le président américain Donald Trump a annoncé qu'Israël et l'Iran avaient convenu d'un cessez-le-feu. Dans son message sur Truth Social, il a indiqué que le cessez-le-feu interviendrait après l'achèvement de ce qu'il a décrit, je cite, comme des missions finales en cours. Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Harachi a lui déclaré ce mardi qu'aucun accord de cessez-le-feu n'avait été conclu avec Israël à ce stade. Le président français Emmanuel Macron a déclaré aux journalistes en Norvège que les frappes américaines contre l'Iran n'étaient pas légales, tout en reconnaissant que l'Iran ne devrait pas être autorisé à développer l'arme nucléaire. L'Australie a envoyé deux avions de défense au Moyen-Orient sans mission de combat pour faciliter les évacuations de civils. Et en sport, deux matchs de la Coupe du Monde des clubs, l'Inter Miami et Palmeiras du Brésil, ont fait match nul, deux buts partout, le FC Porto et Al-Halaï le Caire.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.